Odyssée, écrite par Martin Winkler, remise à jour, lue et enregistrée pour Radio Vassivière.
Comment explore-t-on les océans? Depuis toujours, l'océan fascine. Il suffit d'allumer sa télévision et de tomber sur un documentaire consacré aux profondeurs pour cesser de zapper, se laisser fasciner par les poissons et les coraux. Il y a demande du silence, pour reprendre le titre du film de Jacques-Yves Cousteau. Celui qui se trouve à quelques mètres sous la surface et que l'on filme à la lumière naturelle, et l'autre, celui des grands fonds, où il est si difficile de s'aventurer. La multiplication des émissions de télévision consacrées à la mer ne doit pas nous faire oublier qu'au-delà des quelques centaines de mètres de profondeur, l'exploration sous-marine reste très difficile. Pour explorer le fond de l'océan, il ne suffit pas d'emporter de la lumière. Il faut aussi lutter contre la pression colossale qui s'exerce sur les corps immergés à mesure qu'on s'y enfonce. L'exploration des océans est toute récente. Le premier record de plongée profonde avait été établi en 1934 par la bathysphère qui contenait deux hommes dans un diamètre de 1,50 m et avait atteint plus de 900 mètres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins ne pouvaient pas plonger en dessous de 150 mètres. Pendant les années 50 et 60, les choses se sont accélérées. En 1948, le FNRS-2, un drôle d'engin ressemblant à un champignon, descend jusqu'à 1366 mètres, mais sans passagers. En 1960, à bord du sous-marin Trieste, Jacques Picard et Don Walsh atteignent 11 020 mètres, dans la fosse des Mariannes, la plus grande profondeur marine connue. Moins spectaculaire mais plus maniable, l'Oursin, la soucoupe plongeante du commandant Cousteau, descendait couramment à 300 mètres, avec deux hommes à son bord au début des années 60. Tandis que le NRI, un sous-marin de recherche américain lancé en 1969, atteignait couramment 700 mètres, pouvait rouler sur les fonds sous-marins grâce à des roues. Cependant, aujourd'hui, grâce aux progrès technologiques, la plupart des engins d'exploration des grandes profondeurs sont inhabités. Il est en effet moins dangereux d'envoyer un robot téléguidé équipé de caméras que de faire descendre des hommes. L'exploration des fonds sous-marins nécessite de plus de faire appel à des appareils sophistiqués qui émettent des ondes sonores ou ultrasoniques et permettent d'analyser l'écho de ces ondes produites lorsqu'elles sont renvoyées par un obstacle, faute de quoi la recherche des épaves, par exemple, équivaudrait à celle d'une aiguille dans une meule de foin. Lorsque la mission océanique codirigée par Robert Ballard et Jean-Louis Michel découvre enfin l'épave du Titanic en 1985, cela fait 5 semaines qu'elles sondaient les océans en vain. La chance leur sourit. Cependant, une caméra vidéo sonar télécommandée dénommée Argo repère les premiers débris et permet de rejoindre l'épave proprement dite. Mais le Titanic gît par près de 4000 mètres de fond. C'est donc seulement l'année suivante que Ballard approcha du vaisseau englouti avec deux compagnons dans un minuscule submersible nommé Alvin, qui se mettra à prendre l'eau au moment ultime et les obligea à remonter. Tenace, Ballard redescendra tout de même 11 fois sur l'épave avec Alvin, aidé cette fois-ci de Jason Jr., autre robot télécommandé qui lui permettra d'en explorer le moindre recoin. Si nous pouvons aujourd'hui voir les images du Titanic, c'est donc surtout grâce au progrès de la robotique, de la vidéo et de la transmission des informations à distance, comme avec les sondes Voyager ou le télescope spatial Hubble. Dans une certaine mesure, l'océan tout proche nous reste aussi inaccessible que l'espace interstellaire. Ironique, vous ne trouvez pas ?
C'était Odyssée, écrite par Martin Winkler, remise à jour, lue et enregistrée pour Radio Vassivière.